troisième, dernière table ronde au salon interjurassien de la formation à Moutier. Nous serons donc en direct pendant cette demi-heure pour cette table ronde. Et Thomas Nagy, c'est vous qui êtes à Moutier en ce moment.
Oui, et l'ambiance est toujours aussi bonne après trois jours au salon, au Forum de l'Arc. Pour l'instant, les allées sont en train de se remplir. Les gens reviennent après la pause de midi. Je vous présente tout de suite nos invités pour cette troisième table ronde. Damien Plumet nous parlera de l'incontournable concours des maçons en vue de la finale suisse des Swiss Skills. Il est enseignant et responsable de la Halle des maçons. Sophie Girardet et Vincent Guéla sont étudiants en deuxième année à la HEP Béjune. Ils seront avec nous pour parler du métier d'enseignant à l'école primaire. Et enfin, Damien Quelot, président de l'association des anciens gardes de l'arc jurassien, est là pour nous parler du métier de garde pontificale. Et on plonge directement dans le vif du sujet en nous intéressant à ce qui anime le salon depuis mercredi après-midi, le concours Swiss Skills des maçons, dans lequel s'affrontent les 5 meilleurs ouvriers de Suisse de moins de 22 ans. Avec nous pour en parler, Damien Plumet, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes enseignant et responsable de la Halle des maçons. Depuis deux jours, donc 5 maçons s'affairent depuis deux jours au centre du salon. En quoi consiste ce concours ?
Alors pendant deux jours, ils doivent maçonner deux murs. On se dit deux murs, c'est peut-être pas énorme, mais il faut se dire c'est des murs avec des dessins à l'intérieur, des fresques. Un des murs, ça représente le logo du salon. Et le deuxième, c'est une truelle berlinoise, donc c'est un outil qu'on utilise en tant que maçon. Il est représenté aussi sur nos logos. Et puis on a les lettres HMM qui représentent Halle des maçons Moutier. Et puis on a le 18 qui veut dire l'année 2018.
Et pendant combien de temps est-ce qu'ils vont devoir travailler? Combien de temps ont-ils pour réaliser ces fresques?
Ils ont 20 heures de travail sur 3 jours et demi. Ils ont pratiquement 500 briques à poser. Ça représente 2,4 minutes par brique. Comme ça, on pourrait se dire que c'est beaucoup hein, pour poser une brique, puis mettre 2,4 minutes. Mais il faut savoir que les fraises, il faut les dessiner en grandeur réelle. Une fois que c'est dessiné, il faut tracer les briques. Une fois que c'est tracé, c'est les couper, les poser, les aligner, les régler. Et puis après, ben, la finition avec les différentes sortes de joints, joints arrondis, joints en retrait ou à fleurir. Donc 2,4 minutes, c'est tendu pour pouvoir poser ces 500 briques en 20 heures.
Quelle est la difficulté principale pour ces jeunes maçons?
Or, c'est la précision, hein. C'est de l'horlogerie, c'est au millimètre près. Il faut se dire que c'est des briques qui font 6,5 cm de hauteur. Donc on est vite un petit peu en dehors ou un petit peu en dedans. Puis là, ils n'ont pas le droit à l'erreur, donc ils doivent être précis depuis le début jusqu'à la fin, depuis le matin à 8h qu'ils commencent de travailler, jusqu'au soir à 17h30. Puis après, il y a tout ce qui est longueur, aplomb, alignement, qui représente 80% de la note. Et puis après, il y a 20%, environ 20%, c'est des notes subjectives sur le rendu.
Vous parlez de notes, comment est-ce qu'elles vont être attribuées, par qui?
Alors, on a 4 experts. On a un expert roman qui est responsable aussi de ce concours avec moi. On a 2 experts de Suisse alémanique. On a un expert tessinois, puisqu'on a un candidat tessinois. Et puis, on a un chef expert qui chapeaute le tout.
Donc là, on a affaire à l'élite suisse, j'ai envie de dire, des jeunes maçons. Qu'est-ce que ce genre de concours peut apporter au CV d'un maçon?
Alors déjà, une ligne supplémentaire sur son CV. Puis quand on se dit qu'on est dans les 5 meilleurs maçons de moins de 22 ans, ça ne peut pas arriver à tout le monde. Hein. J'entends, c'est unique, c'est un niveau très très élevé. Et puis si vous avez la chance de venir voir, ben, vous allez découvrir quand même les complexités de ce mur. Et puis c'est vrai que je pense que ça fait plaisir quand on se dit qu'on a 20, 21 ans, puis qu'on est sur 3-4 000 maçons, qu'on est entre le premier et puis cinquième, c'est génial. Quoi.
C'est quelque chose qui peut plaire aux employeurs finalement de performer dans ce genre de concours?
Oh, je pense, ouais, parce que si vous recevez un CV et qu'il dit qu'il a participé à 2-3 concours, parce que les 5 jeunes qui sont là, c'est pas leur premier entraînement, hein, ils ont déjà fait une sélection régionale, ils ont déjà fait une deuxième sélection qui a eu lieu à Bâle dans le courant du mois de janvier, où c'est qu'ils étaient 10 candidats, dont 3 romans, puis malheureusement, ces 3 romans n'ont pas été qualifiés puisqu'ils prenaient les 5 meilleurs. L'employeur, il se dit quand même, pour avoir participé à tous ces concours, de s'être entraîné, hein, parce que quand ils viennent ici, ils ne viennent pas comme ça, comme des touristes. Il y a quand même une préparation mentale, physique, et puis bah, ça montre la motivation du jeune. Quoi.
Le thème de salon cette année, c'est l'égalité. Est-ce que beaucoup de filles exercent le métier de maçon? Il n'y en a pas, en tout cas, dans les 5 finalistes, mais
alors, là, pour le moment, on n'en a pas ou plus, mais on en a eu. On a eu une jeune dame qui a fait maçon il y a il y a 5-6 ans en arrière, et puis qui est venue chef chantier maintenant. Puis on a eu aussi dans le même domaine, constructrice de route, qui a passé les examens il y a 2 ans en arrière.
Est-ce que voir ces artisans surdoués, finalement, ne donnerait pas peut-être une fausse idée de ce qu'est le métier de maçon aux jeunes visiteurs? Est-ce que dans la pratique, ils auront l'occasion d'exercer leur créativité, leur talent?
Or, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent sur nos chantiers ou en entreprise, mais ça va peut-être revenir à la mode, hein, parce qu'il y a quelques années, il y a 20, 30, 40 ans, on maçonnait ces murs en briques terre cuite visibles. Mettons, on est plus sur du béton, sur des parois lisses, mais peut-être d'ici quelques années, ça va revenir.
Dernière question, ces fresques, qu'est-ce qu'elles vont devenir après le concours?
Malheureusement, on finira la belle, mais s'il y en a un qui est intéressé, c'est volontiers qui peut venir la chercher. Puis les apprentis qui démontent, ils seront peut-être bien contents que quelqu'un vienne les chercher.
Ouais. D'accord, le message est passé. Merci Damien Plumet. À noter que vous pourrez retrouver un reportage sur le concours des maçons sur bnj.tv. Dans un instant, nous nous intéresserons à deux métiers, tantôt masculin et féminin. Mais avant cela, on marque une courte pause musicale. À tout à l'heure. Nous allons nous intéresser à un métier plutôt féminin, du moins dans les chiffres, enseignant à l'école primaire. Le métier se féminise depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, moins de 20% des enseignants de la filière sont des hommes. Sophie Girardet et Valentin Guéla, bonjour. Vous êtes tous les deux étudiants à la HEP en deuxième année et vous vous destinez à l'enseignement primaire. Alors, première question pour vous, Sophie. Est-ce que c'est plus pratique d'être une femme pour enseigner à l'école primaire?
Alors je ne sais pas si c'est plus pratique, mais en tout cas c'est vrai qu'on est de plus en plus de femmes. La preuve encore dans notre volet, il n'y a que 3 garçons et une majorité de filles, donc une trentaine, environ un peu plus. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup, mais ce n'est pas forcément plus pratique.
Et vous, Valentin, qu'est-ce qui vous a poussé à suivre cette formation? Vous êtes un des oiseaux rares de la volée apparemment.
Oui, à peu près. Moi j'aime beaucoup travailler avec les enfants en fait. Et puis aussi, ce que j'apprécie dans le rôle d'enseignant, c'est qu'on a beaucoup de casquettes, en fait. Et par exemple, ici, venir au centre de formation en tant que guide, je pense que ça fait aussi partie du rôle d'enseignant, guider les jeunes dans leur formation. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire en tant qu'enseignant.
Donc vous, ce que vous recherchez, finalement, c'est le contact avec, d'être proche avec les enfants?
Exactement, oui. Je pense que c'est une partie très importante de l'enseignement.
Plus que les adolescents, c'est ça qui vous a décidé à choisir l'école primaire?
Alors, moi, c'est surtout, je voulais l'enseignement primaire parce que déjà, j'avais pas de bachelor, donc je pouvais pas me destiner au secondaire. Mais c'est vrai que les jeunes enfants m'intéressent aussi beaucoup, peut-être plus que les adolescents, effectivement.
Est-ce que le fait que le métier soit surtout pratiqué par des femmes était quelque chose que vous aviez en tête au moment de choisir cette formation?
Non, pas du tout. Alors moi, ça ne me pose aucun problème. Je dois même dire, quand je vais en stage, les fées, comme on appelle, donc les formateurs en établissement, sont contents de voir un garçon arriver dans leur classe. Ça change un petit peu.
Donc finalement, c'est plus pratique d'être un garçon.
C'est ça, finalement, conclusion, c'est plus pratique d'être un garçon. Vous, Sophie, est-ce que vous avez eu des enseignants masculins ou féminins durant votre passage à l'école primaire?
Alors j'ai eu aussi des enseignants masculins, donc au primaire un peu moins, après, mais j'ai eu quand même quelques enseignants de sport qui étaient des hommes. Après, ça s'est généralisé un peu plus au secondaire, où il y a vraiment beaucoup plus d'enseignants masculins, là c'est sûr.
Vous aviez eu l'impression qu'il y avait une différence?
Alors pas forcément, non, moi je ne voyais pas vraiment de différence entre un homme et une femme. Je pense qu'on a autant de capacité à faire ce métier, qu'on soit homme ou femme, ça n'a pas d'importance.
Alors selon vous, qu'est-ce qui explique que le métier se féminise de plus en plus depuis certaines années? À l'époque, on n'avait pratiquement que des instituteurs. Aujourd'hui, c'est un peu le phénomène inverse qui se passe. Selon vous, pourquoi?
Alors, c'est un peu compliqué à dire, vraiment. Je pense que ça va même dans le domaine de la sociologie, c'est vrai. Mais disons qu'avec l'ouverture aussi des formations tertiaires pour les femmes, et puis la possibilité de justement accéder à ces formations, ça a aussi permis aux femmes justement de s'y intéresser et puis de se destiner de finalement à être enseignante. Et puis je pense que d'avoir de plus en plus de femmes, on se dit, bah, moi en tant que femme, je peux aussi y aller. Donc peut-être qu'on y va plus facilement que les hommes qui disent, ah mais c'est un métier de femme, donc non, je ne vais pas y aller parce qu'il y a justement trop de femmes.
Vous pensez que des hommes ne se lancent pas dans l'enseignement primaire à cause du stéréotype?
Oui, sûrement. Sûrement qu'il y a pas mal de stéréotypes à ce sujet-là où on se dit, ben, je suis un homme, je ne peux pas travailler avec des enfants plus jeunes. Peut-être qu'il y a aussi une certaine barrière qui s'est créée liée à ces stéréotypes, justement.
Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Valentin?
Moi, oui, je suis aussi d'accord avec Sophie. En fait, il y a effectivement peut-être des stéréotypes qui sont créés. Mais je pense, je propose aux futurs enseignants de passer cette barrière et puis de venir essayer à travers des stages. Et puis franchement, ce n'est pas uniquement réservé aux femmes. Donc même à l'école enfantine, on peut se dire que c'est vraiment un métier que de femmes. peut-être parce qu'il y a un lien avec la notion de mère, peut-être. On dit souvent qu'il faut être un peu une maman avec ces jeunes élèves. Mais je connais quelques personnes au masculin qui sont à l'école enfantine et ils débutent très bien.
Qu'est-ce qu'il faudrait pour changer l'opinion des gens ou cette image qu'a le métier d'enseignant primaire, à votre avis?
Je pense justement d'avoir des hommes déjà dans la formation qui parlent et puis qui disent que justement c'est pas une formation uniquement réservée aux femmes. Ça aide aussi à passer par-dessus ces stéréotypes et puis à peut-être se lancer dans une carrière d'enseignant.
Merci Sophie Girardet et Vincent Guéla. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour le dernier volet de cette table ronde. A tout de suite. Troisième et dernier volet de cette table ronde, nous allons nous intéresser à un métier exclusivement masculin, garde pontificale. Avec nous en direct du salon, Sylvain Quelot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de Jurassia, l'association des anciens gardes pontificaux de l'arc jurassien. Pour commencer, j'ai envie de vous demander, la garde pontificale, c'est le seul métier du salon qui n'est pas accessible aux femmes, alors que le thème de l'année, c'est l'égalité des chances. C'est pas un peu culotté d'être là aujourd'hui ?
Alors, je crois pas. Donc, c'est un défi audacieux, je vous l'accorde, d'être présent à ce salon interjurassien de la formation. C'est la deuxième édition du salon à laquelle on participe. Et effectivement, sur la palette des 160 métiers, c'est le seul qui n'est pas ouvert aux femmes. Mais cependant, notre stand prône l'égalité puisqu'on offre aux demoiselles aussi la possibilité de se mettre dans la peau de la sentinelle et de relever le défi de se mettre 10 minutes en sentinelle dans la peau du garde suisse avec la hallebarde et un béret sur la tête.
Alors justement, vous proposez aussi aux femmes de relever ce petit défi. Alors qu'est-ce que vous dites à celles qui réussissent aussi bien que les hommes de rester 10 minutes immobiles? Comment vous leur expliquez qu'elles ne peuvent pas devenir gardes?
Oui, alors on est sincère, hein, on leur dit dès le départ qu'elles ne pourront pas aller à la garde suisse plus tard, mais cependant qu'elles peuvent se risquer à ce petit défi. Et je dois dire qu'elles se prennent vraiment au jeu. Et elles sont aussi résistantes que les garçons. Elles sont vraiment très douées dans cet exercice. Et elles prennent ça tout à fait à cœur, vraiment.
Alors est-ce qu'on a une chance éventuellement, un jour peut-être, de voir des femmes intégrer la garde suisse, ou est-ce que c'est totalement utopiste?
Alors il ne faut jamais dire jamais, mais je dirais que la présence de la gente féminine dans les armées, dans les corps militaires, c'est quelque chose de relativement récent. Et dans la garde suisse, ce n'est pas encore le cas. Je ne dis pas que ça ne pourrait pas être le cas un jour, bien sûr, tout évolue. Mais actuellement, c'est vrai que ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Aussi parce que ça nécessiterait d'aménager la caserne également pour accueillir des filles. Il faut savoir qu'on a une caserne qui est relativement petite, dans un espace qui est petit au Vatican. Et puis, voilà, c'est vrai aussi qu'après, ça poserait toute une série de questions au niveau de l'uniforme, parce qu'on porte cet uniforme de la Renaissance qui est particulier. Alors, imaginez une fille dans un tel uniforme ou un uniforme féminin de la Renaissance, ça paraît un peu difficile, mais enfin, voilà, faut jamais dire jamais, qui sait.
Donc c'est plutôt des questions techniques, si je comprends bien.
Oui, oui, une fille serait tout à fait capable d'assurer le service d'un garde, tout à fait. Après, il faut savoir qu'on est aussi au cœur de l'Église catholique, dans un milieu qui est quand même relativement masculin. Donc voilà, c'est aussi peut-être un élément qui fait que ben, voilà, c'est pas tout à fait à l'ordre du jour.
On a vu beaucoup de monde autour de votre stand. Qu'est-ce que les gens vous demandent?
Alors, je dois dire que notre stand crée la surprise. Il y a beaucoup de métiers de la technique ici dans ce salon. Et nous, en fait, voilà, notre but, c'est de surprendre les gens parce qu'on ne s'attend pas à trouver les gardes suisses dans un salon de la formation. Alors, les gens sont intéressés et les jeunes, je dois dire, quelques-uns savent que c'est des Suisses qui assurent la sécurité du pape à Rome. D'autres n'ont aucune idée, ne savent même pas qui est le pape, qu'est-ce qu'il fait. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour nous d'expliquer tout ça et d'expliquer aussi ce qu'on fait à Rome et de présenter la garde suisse comme un métier à plein temps, même si c'est plutôt une expérience pour quelques années. C'est pas vraiment un métier pour toute la vie, même si on peut faire jusqu'à 25 ans de service, mais c'est plutôt une expérience de 2 ans dans un moment charnière dans la vie, je dirais, entre des études, après un apprentissage, avant de reprendre un travail ou des études. Donc voilà, c'est plutôt une expérience hors du commun et on la présente comme ça.
Et du coup, si c'est une expérience plus qu'un métier à part entière, puisqu'on ne peut pas faire carrière plus que 25 ans, et d'ailleurs ceux qui le font sont plutôt rares, est-ce que c'est un choix de formation que vous conseilleriez quand même à des jeunes qui sont en quête justement d'avenir?
Oui, tout à fait. Je dirais que c'est une expérience qui est extrêmement enrichissante à différents niveaux. Tout d'abord au niveau humain, parce qu'il y a une dimension de camaraderie, c'est une expérience de vie, c'est une école de vie. Au niveau militaire, bien sûr, parce qu'on reçoit une formation d'autodéfense, de sécurité, donc qui est tout à fait aussi prévue par rapport aux menaces, si j'ose dire, actuelles au niveau de la sécurité. Donc on est vraiment à la page, si j'ose dire, parce qu'on sait très bien que si on veut assurer un service de sécurité qui en soit vraiment un, eh bien on doit aussi assurer une formation aux gardes qui soit sérieuse et voilà. Et après, je veux dire, c'est aussi une expérience spirituelle, parce qu'on découvre une autre réalité de l'Église, on sert le pape, c'est pas n'importe qui, c'est pas un chef d'État comme les autres. Voilà, c'est aussi un guide spirituel, donc il y a cette dimension-là aussi, et bien sûr une expérience culturelle, parce qu'on vit à Rome, au centre de Rome. Voilà, donc si on s'intéresse un peu à l'art, à l'histoire, à l'architecture, c'est génial. Et donc, dans la vie d'un jeune homme, d'un jeune catholique, c'est vraiment une expérience unique dont on rentre véritablement changé.
On l'a vu dans le salon, les métiers se modernisent, la technologie est de plus en plus présente à tous les niveaux. Est-ce que la fonction de garde pontificale, très traditionnelle, certaines armures ont 3 siècles, est-ce qu'elle évolue également ?
Bien sûr qu'elle évolue. Donc comme je vous disais, on assure maintenant au niveau de la formation aussi une formation d'autodéfense en collaboration avec la police cantonale tessinoise. L'école de recrues de la garde suisse se déroule en 2 temps. Ça dure 2 mois, dont 1 mois à Isone, au Tessin, dans la caserne des Grenadiers, où là, on est formé au tir, aux techniques d'autodéfense. Et après 1 mois à Rome, où là, on est formé à toutes les manipulations avec la hallebarde, apprendre à faire de l'école de section, à marcher ensemble, et toutes les manipulations avec la hallebarde et les cours d'italien. Et donc, oui, on est formé aussi à tout ça. Et je pense que, ben voilà, pour tout ça, on est prêt à intervenir aussi au niveau de la sécurité pour protéger le pape.
Merci Sylvain Quelot. On arrive au terme de cette table ronde, la dernière pour ce 10e salon de la formation. Merci à nos invités d'y avoir participé. Et merci à vous de nous avoir écoutés sur RFJ ou RJB. Et je vous rappelle que le salon de la formation, c'est jusqu'à dimanche au Forum de l'Arc à Moutier.